Montpellier, ma ville.
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 Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Montpellier, ma ville. Aujourd'hui, nous retrouvons une nouvelle fois Gérard Rousset, notre spécialiste des questions européennes. Précédemment, vous avez pu suivre ses différents entretiens avec la députée européenne Virginie Rozière sur la question de la laïcité à l'échelle européenne, puis sur le projet d'accord de libre-échange transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, le fameux TAFTA. L'entretien que nous allons suivre dans un instant concerne cette fois les indications géographiques protégées. Sont-elles réellement protégées et pourquoi doit-on les protéger? Virginie Rozière nous fait part des travaux qu'elle mène au Parlement européen sur cette question. Elle défend, elle lutte contre l'usurpation des appellations des produits non agricoles. Gérard Rousset et Virginie Rozière.
Vous avez donc eu et vous avez toujours d'ailleurs, au niveau du Parlement européen, vous avez travaillé sur...
Donc, c'est un de mes sujets,
dans mon sujet de travaux.
Hein. Ah oui, exactement.
Et alors, sur des produits donc, non agricoles.
Oui.
Parce que moi, je les connaissais bien en termes de produits agricoles.
Oui, oui.
Mais non en termes de produits non agricoles.
C'est ça. Aujourd'hui, vous avez une protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles qui est harmonisée au niveau européen.
Oui, alors effectivement, aussi des produits transformés, puisque effectivement, il y a des camemberts, enfin,
Oui.
On est déjà dans le produit transformé, mais on n'est pas dans le produit industriel.
Non, c'est ça. Et on est sur des produits qui ont un lien à la production locale.
Locale.
Camembert, il est fait avec du lait de Normandie.
Oui.
Le vin, coteau du Languedoc, il est fait avec du raisin qui pousse ici. C'est le principe d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine. Et c'est vrai qu'en matière agricole, on voit bien le lien avec le territoire.
Et on sait ce que ça pose comme question, d'ailleurs, au niveau du Larzac, sur effectivement les élevages de moutons. Pour fabriquer...
C'est ça. Après, vous avez à chaque fois un cahier des charges qui correspond à une indication ou une appellation. Et c'est le respect de ce cahier des charges qui conditionne le fait de pouvoir utiliser justement le terme géographique. Mais on sait aussi qu'on a des productions artisanales, manufacturières, non agricoles, non alimentaires, qui sont très localisées, qui sont emblématiques d'un territoire, qui ont une notoriété, justement.
Le lagueul, par exemple.
Par exemple. Mais ce n'est pas seulement...
Et on envoie des lagueuls fabriqués...
Voilà. Exactement. Donc la question... C'est vrai que la question était très sensible, particulièrement dans la région, mais voilà, autour de la lagueul, en se disant, mais on a des lagueuls qui sont fabriqués en Chine, ça ne va pas. Lagueul, on sait où c'est. C'est dans l'Aveyron. Sur l'Aubrac, donc c'est pas possible, enfin, on ne devrait pas avoir de l'aïeul qui sont fabriqués en Chine. Et c'est partant de ce constat, en se disant, mais en plus, on est sur des productions qui sont emblématiques, qui ont une véritable notoriété, qui représentent un savoir-faire, une histoire, une culture, du patrimoine, et puis qui sont souvent produits dans des régions, qui sont des régions rurales, où ça correspond à une activité économique qui est importante pour le territoire. Qui amène de l'activité économique, qui amène de la visibilité, de l'attractivité. Et donc si on laisse usurper cette notoriété-là, ben, c'est autant de difficultés supplémentaires pour des territoires qui sont potentiellement fragiles, et puis pour des entreprises qui sont souvent des petites entreprises, très petites entreprises, et qui donc n'ont pas forcément la capacité à se défendre en face de produits qui, justement, aujourd'hui, comme ça n'est pas protégé, ne sont pas des contrefaçons. Et l'idée de mettre en place une protection des indications géographiques pour les produits non agricoles, c'est de pouvoir assurer l'authenticité de ces produits et de pouvoir avoir un outil pour se protéger de productions qui seraient en provenance d'autres pays, d'autres zones du monde, sans lien avec l'histoire et le savoir-faire qui devrait les caractériser.
Oui, mais alors, d'autres pays, effectivement, je comprends bien, enfin, d'autres régions du monde, on peut le comprendre. Mais est-ce que ça ne peut pas intéresser un certain nombre d'autres territoires, d'autres régions, finalement?
Ah si.
Hein, et pas seulement,
bien
finalement, pourquoi pas faire du comté en Normandie?
Mais pourquoi faire du comté en Normandie?
Non, mais pourquoi? Parce que s'il y a une possibilité de se développer...
Rien ne vous empêche de faire du fromage en Normandie qui soit une pâte pressée cuite. Vous n'êtes pas obligé d'appeler comté.
Oui, tout à fait. Oui, mais la notoriété du mot comté...
la notoriété, elle vient quand même, justement, d'une histoire, d'un ancrage, d'un territoire. Donc, Si vous voulez utiliser cette notoriété-là, c'est bien de ne pas l'usurper.
Et rien
ne vous empêche de vendre du fromage fabriqué en Normandie à la manière du comté, mais simplement vous ne l'appelez pas comté parce que ça vient pas de la même région.
Oui, mais je comprends quand on fait de la défense par rapport finalement à des régions hors Union européenne, mais au sein de l'Union européenne, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un intérêt de se dire, par exemple, le savon de Marseille, se dire, tiens, ils font du savon de Marseille, mais finalement, ça demande des ingrédients qui sont bien connus, qui sont bien répertoriés, et finalement, moi, je me trouve à Hanovre, pourquoi je ne fabriquerais pas du savon de Marseille ?
Après, ça dépend à quel point vous êtes... Sur la question du savon de Marseille, c'est une question un petit peu particulière, parce que, historiquement, il y a eu des bassins de production un peu partout, le savon de Marseille, au départ, c'est une recette inventée à Marseille, parce que Marseille était un comptoir de commerce dans lequel arrivait, vous savez, l'huile d'olive, en plus produite autour de Marseille, qui était une des matières premières pour la production de savon de Marseille. Donc, effectivement, ça s'est créé là, mais c'est devenu aujourd'hui plus une recette qu'une localisation de la production. En même temps, vous pouvez fabriquer du savon artisanal, de manière naturelle, qui utilise des matières premières. Est-ce que vraiment vous avez besoin de l'appeler savon de Marseille pour valoriser votre produit ? C'est ça la question.
Bien sûr.
Donc, vous avez peut-être d'autres manières de valoriser votre production. Donc ça, après, c'est une étude au cas par cas. Sur l'Aïeul, on voit bien quand même que la zone est le bassin de production sur l'Aïeul. Sur les vases d'Anduze, on sait bien que c'est parce que c'est produit à Anduze. Personne ne vous empêche d'aller produire des couteaux ou des poteries. Simplement, ne les appelez pas d'un endroit dans lequel ils ne sont pas produits. C'est une forme d'usurpation d'une notoriété qui n'est pas légitime. Donc, on n'empêche personne de produire des produits de quelque nature que ce soit. Simplement, quand on se réclame d'un lieu, on s'assure que les produits sont effectivement fabriqués sur ce lieu. Mais vous savez, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup en France. On a énormément de produits typiques sur la région. Donc on a cité l'Aïeul, l'Anduze. Vous avez le grenat catalan aussi, par exemple. Mais en France, on a énormément de production dans le textile, avec le linge catalan, le linge basque, la dentelle du Puy ou de Calais. On a aussi beaucoup de demandes sur la pierre, sur l'ardoise. Vous allez avoir possiblement de l'ardoise à l'Audin l'ardoise. Le marbre de Saint-Pons, pour parler de l'Hérault, Saint-Pons de Thomières. On a aussi une demande sur le granit de Bretagne. Donc, on a beaucoup de production comme ça sur lesquelles on a... Il y a aujourd'hui une concurrence déloyale, parce que vous avez des pierres, par exemple, qui sont vendues, on vous dit que c'est du granit de Bretagne, mais ça n'est pas. Donc il y a une demande pour cette protection, mais pas seulement en France, beaucoup en France. Mais moi, comme vous l'avez dit, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis mon arrivée au Parlement européen, ça fera bientôt 2 ans que je suis mobilisée sur ce dossier. Et donc j'ai organisé un certain nombre de débats au Parlement européen en invitant des producteurs d'un peu partout en Europe. J'avais fait le choix d'ailleurs de n'avoir pas de producteurs français, mais des producteurs d'autres pays, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, évidemment, mais pas seulement, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Grande-Bretagne, Écosse et Angleterre. Donc vraiment, on se rend compte qu'on a des savoir-faire un peu partout en Europe et un besoin de protection et une usurpation de la notoriété qui se retrouve partout, dans tous les pays européens. Mais je vais vous dire, ça n'est même pas une question uniquement européenne. Vous savez qu'on discute, et on en parlera sans doute à un autre moment, des accords commerciaux, des accords de libre-échange. Mais c'est une demande aussi des pays en voie de développement de reconnaître les productions artisanales locales. Parce que là, dans ces pays-là aussi, il y a des savoir-faire, mais qui sont beaucoup plus traditionnellement ancrés sur des productions artisanales que sur des productions agricoles. Et c'est une demande de pouvoir justement reconnaître les indications géographiques et la typicité de ces produits dans le cadre de ces accords. Vous avez cette demande qui émane aussi bien de l'Inde, mais aussi de la Chine, qui a des savoir-faire artisanaux. Et également, c'est un des moyens dans les politiques de développement pour assurer le commerce équitable, justement, de reconnaître ces productions-là, y compris dans les pays d'Afrique, par exemple. Donc ça n'est pas qu'une question européenne, c'est une question qui permet de justement rémunérer des petites entreprises, des petites structures, des artisans qui aujourd'hui produisent des fabrications de qualité, et les reconnaître, ça leur permet de mieux gagner leur vie.
On marque une pause, la suite de cet entretien dans un instant, et c'est juste après ceci.
tu rêves, tu dors, t'es bien, tu penses à quoi, hein, hein. Râle-bol, râle-bol. T'étais où? C'est qui ce mec? Tu penses à moi?
À moi, moi,
moi, moi. Avec Pierre, Jean, Jacques ou Paul, ces monologues du vagin en farandole. Tremper ma fidélité dans son fort molle, laisser ma sensualité dans sa bagnole. Je te dis râle-bol, des pots de colle, sexe symbole, de bonne camisole. Et je te dis râle-bol, des phobies de contrôle, des baby-dolls, des tyrans qui m'isolent. Râle-bol, des phobies de contrôle, râle-bol, du tyran qui m'isole.
Râle-bol,
des paroles qui parlent,
râle-bol,
des jupons qui s'envolent.
Julie Herbillon et Adelina Belgoder, le duo Talon Haut et leur nouveau single Ras-le-bol. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Aujourd'hui dans votre magazine Montpellier, ma ville, il est question des travaux que mène la députée Virginie Rosière au Parlement européen. La défense, la lutte contre l'usurpation des appellations des produits non agricoles. Un entretien mené par notre spécialiste des questions européennes, Gérard Rousset.
Alors, il y a une autre question qui va se poser par derrière, c'est effectivement le dépôt des marques. Parce que déposer des mots, des noms, okay, la viole, on peut le déposer, etc. Ce qui coûte au niveau français, mais est-ce qu'il y a véritablement un dépôt des marques au niveau européen?
Oui, oui, oui.
C'est ça qui est important aussi. Et c'est non seulement des marques, mais c'est aussi des savoir-faire. Des zones dans lesquelles on ne peut pas aller au-delà d'eux pour pouvoir faire tel ou tel produit, parce que c'est ça qui finalement fait la véritable défense. Parce que s'il faut déposer dans chacun des États membres de l'Union européenne, et à chaque fois donc le traduire dans la langue, aux entreprises, ça va leur coûter une somme énorme.
C'est, vous touchez exactement à la difficulté et à tout l'enjeu de ce dossier sur lequel je me bats depuis bientôt 2 ans et où j'espère que la Commission européenne va répondre favorablement. J'ai été rapporteur, donc j'ai présenté un rapport au Parlement européen qui a été adopté à une très large majorité, plus de 600 voix sur 751, pour demander une protection européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour les marques, vous avez la possibilité de déposer une marque européenne. Pour les indications géographiques ou les appellations d'origine agricole, vous pouvez déposer une appellation et elle a une valeur européenne. Pour les productions artisanales, si vous voulez protéger votre production artisanale, vous ne pouvez le faire que sur une base nationale et encore pas dans tous les pays. Ça n'est protégé que dans la moitié, dans 15 pays sur 28 aujourd'hui. Dans 13 autres pays, vous n'avez aucune protection. Et ces protections, elles sont pas reconnues entre États. C'est-à-dire que si vous voulez protéger votre production en Europe, vous allez devoir faire 15 fois la démarche dans les 15 pays qui protègent, et encore, vous ne serez protégé que dans 15 pays sur 28. Donc c'est extrêmement complexe, extrêmement coûteux, vous n'avez pas de sécurité juridique, vous n'avez pas la manière dont ça s'articule avec justement les marques commerciales et pas la même dans les différents pays, et comme on l'a dit, sur ces productions-là, vous avez souvent des très petites entreprises qui n'ont absolument pas les moyens de se lancer dans ce type de démarche. Donc si on veut pouvoir répondre aux besoins des artisans et des PME artisanales partout en Europe, on a besoin d'une protection européenne. Vous faites la démarche une fois pour toutes. Elle est valable dans toute l'Union européenne. Vous vous arrangez pour que ce ne soit pas trop coûteux. Et puis vous vous arrangez aussi pour que, comme c'est le cas pour les productions agricoles, on ne puisse pas venir déposer une marque qui vous empêche de faire valoir votre indication géographique.
Donc la solution, ce serait presque de faire comme on a fait pour la sécurité sociale et la carte de sécurité sociale européenne, d'avoir une couverture qui soit valable quand on se promène, donc français ou espagnol, on a une carte de sécurité sociale, où que l'on aille en Europe, elle est valable.
Mais là, effectivement, c'est la question, elle est d'avoir une protection européenne, et quelque chose qui soit homogène au niveau européen, avec une agence européenne
Mais il faudrait harmoniser les législations, alors, au niveau des dépôts.
Bah, il faudrait une législation. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, vous avez une législation européenne en matière de droit des marques qui permet le dépôt d'une marque européenne. Donc, c'est le cas pour les marques. Ça n'est pas le cas pour les indications géographiques, pour les produits manufacturés. C'est ce qu'il faudrait faire, effectivement, avec, comme vous l'avez mentionné, c'est pas juste déposer un nom, c'est établir un cahier des charges qui précise la zone de production, qui précise le mode de fabrication, pour s'assurer qu'on est sur une fabrication qui reflète l'authenticité des produits, et pour que ce soit, justement, ce cahier des charges, ensuite, soit et une valeur européenne. Donc c'est tout l'enjeu. Maintenant, je suis en débat avec la Commission européenne qui doit maintenant proposer une législation, un cadre législatif européen homogène pour que les entreprises n'aient pas à se lancer dans une multitude de démarches, mais puissent en une seule fois protéger leur production partout en Europe.
Donc là, vous allez continuer à travailler sur ce sujet.
Bien sûr.
Bon, alors vous nous informerez des avancées alors.
Que j'espère rapide et importante, les débats sont en cours. J'espère, mais encore une fois, c'est un travail de conviction parce que même si c'est un besoin des entreprises et c'est une demande des consommateurs, il y a encore des débats sur la nécessité de cette législation. Moi, j'en suis convaincue et c'est une demande très forte des entreprises, donc j'espère qu'on pourra y répondre très rapidement. J'espère d'ici la fin de l'année, mais c'est tout l'objet de mon combat.
Bon, bah écoutez, j'espère donc qu'on aura l'occasion d'en reparler avec, dans quelques temps, parce plaisir. Que ça, c'est un sujet quand même qui est important, parce que ça me ramène à une autre question. Les gens sont... Ça, c'est une question... Je dirais presque philosophique, les gens disent ouais, il y a trop d'Europe, et en même temps ils disent oui, il n'y a pas assez d'Europe. Et c'est parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, si, comme ce problème que vous venez de soulever, comme s'il suffisait d'y penser pour dire bah oui, c'est tout simple à régler, quoi. Alors que pour mettre en place ne serait-ce que la carte de sécurité sociale européenne, il a fallu 5 ans de discussion.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues de la Commission en disant là, on a l'occasion d'apporter une réponse concrète à des besoins immédiats de PME et d'artisans qui n'ont pas forcément une très bonne image aujourd'hui de l'Union européenne. Et là, l'Union européenne, en tant qu'institution, peut leur apporter une réponse, une solution, leur montrer qu'elle leur permet de valoriser leur travail, de valoriser leur production et de gagner en visibilité, en reconnaissance. Donc ce serait dommage de passer à côté d'une aussi belle occasion de montrer tous les bénéfices qu'on peut retirer justement de la construction européenne.
Mais ça vient aussi du rôle des médias,
oui,
qui passent leur temps à dire quand il y a quelque chose. Et des politiques, quand ça va bien, c'est moi. Quand ça va mal, c'est la Commission. Parce qu'on ne dit pas l'Union européenne, la Commission, tout ça.
C'est l'Europe.
C'est l'Europe, allez.
C'est Bruxelles.
C'est Bruxelles. Bruxelles ou l'Europe, voilà.
Les débats sont un peu houleux parce que on a certains pays, en particulier les pays nordiques, qui sont très très branchés droit des marques et qui sont pas très très allants pour l'extension des indications géographiques parce que c'est pas dans leur culture nationale, mais ils sont très minoritaires. C'est vraiment 2-3 pays sur 28. Par contre, la demande elle est très large dans les autres pays, mais qui sont à des postes un peu clés et qui aujourd'hui arrivent à bloquer un peu le processus. Et j'espère qu'on va arriver à lever ces blocages là parce que si on n'arrive pas à avancer sur ce sujet-là, moi je pense que ça peut se retourner de manière assez négative. Moi, je vois toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, dans tous les bassins de production, ils attendent ça. Si on n'y répond pas rapidement, je pense qu'on peut avoir, au contraire, la déception peut être très nocive en termes d'image pour l'Union européenne.
C'était votre magazine hebdomadaire Montpellier, ma ville. Je vous souhaite un excellent début de semaine sur FM+. Bye bye.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.